peut peut-être tracer peut-être un fil rouge qu'on pourra développer, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas le garder en tête pour une prochaine rencontre, c'est combien tout ce matériel si riche que vous, qui a dû être contenu dans un temps très imparti, effectivement, mais montre pour vos quatre exposés, combien il est important de pouvoir penser des traductions de ce travail en termes d'évaluation de ce travail, et pas une évaluation rigide, une évaluation qui permette la retranscription des qualités, de la singularité de ces enfants devenus adolescents, qui vont être confrontés aussi à la sexualité, hein, tout le monde le montre, et aussi à tous les émois dépressifs primaires, mélancoliques, et comment à la fois le travail d'investigation psychométrique, mais aussi vient de tous les éléments de la personnalité qui vont contribuer à montrer le travail aussi qui se déploie au sein de ces dispositifs.
Je voulais juste dire, comme j'ai pas le temps, mais Charles, il a été 3 fois évalué, et donc avec et les projectifs et les échelles.
Ça, oui,
ça m'a servi. Enfin, je n'ai pas mis là, mais c'était.
Oui, oui, c'est justement quelque chose que je voulais dire. C'est qu'effectivement, dans ta description du travail de l'hôpital de jour avec cet enfant, tu t'es appuyé à la fois sur la grille de Geneviève Bague et sur des bilans. Hein, il y a les pictos, etc. Bon. Alors, si je reprends très rapidement à propos de l'exposé de Pierrette Coyer, bon, voilà, je voulais simplement souligner combien la psychothérapie demande une contenance souple et ferme en même temps. Bien, j'ai trouvé très intéressant la capacité de Pierrette à pouvoir se représenter un monde plat à un moment. Hein, c'est-à-dire que ces enfants demandent un énorme effort pour pouvoir se représenter un petit peu dans quel monde ils sont. Ça nous demande un effort permanent, ça ne vient pas de façon intuitive facile. Ensuite, en ce qui concerne l'exposé de Marie Allione, je trouve que c'est absolument fondamental ce qu'elle a dit à propos du fait que l'équipe devient le lieu de projection ou de diffusion du monde interne de l'enfant, et comment les gens peuvent s'étriper alors qu'ils sont simplement des dépositaires du monde morcelé de l'enfant, ce dont ils n'ont aucune conscience. En fait, ils sont habités par quelque chose qui leur est étranger, mais ce dont ils ne se rendent pas compte. Ça fait partie, c'est un travail extrêmement difficile en hôpital de jour, c'est extrêmement difficile de repérer ça. Et c'est pourtant comme ça que les progrès se font, c'est lorsque l'équipe en prend conscience et qu'il peut y avoir des articulations entre les différents porteurs des transferts morcelés de l'enfant dans l'équipe. Bon. Également, la question du holding, de holding, extrêmement importante aussi. Avec l'exposé de Chantal, je pense que c'est extrêmement important ce qu'elle a dit à propos de la construction de l'intersubjectivité comme base pour l'accès à la socialisation, et que très souvent on saute cette étape et on va à la socialisation, ce qui est une grosse erreur. Donc, et également l'idée fondamentale que le sentiment d'exister se construit dans la rencontre avec l'autre. Il n'y a pas d'autre moyen pour que les progrès psychiques se fassent. Et la notion de plaisir qui est absolument indispensable. Maintenant, avec l'exposé de Pascal Amboise, donc 12 ans de traitement, donc ce travail d'hôpital de jour, et donc de plusieurs intervenants, justement l'articulation des différentes professions, et qui est appuyée, donc Pascal s'appuie énormément donc, sur la grille de Geneviève Bague, enfin la grille EPCA. Et je voudrais revenir là-dessus pour vous dire que donc monsieur et madame Turin ont installé des tableaux dans l'entrée là, et ils vont bientôt, il va y avoir à votre disposition des MOOCs, c'est-à-dire une première formation à la grille EPCA qui se trouvera donc disponible. Et d'autre part, nous nous préparons à pouvoir entamer des formations à la grille EPCA bientôt à la CIPA. Et c'est vrai que notre clinique doit s'appuyer sur un certain nombre de références théoriques qui sont que nous avons en arrière-fond dans notre travail avec les enfants au quotidien.
Oui, Jacques Hockmann, il dit que les concepts, on peut les feuilleter comme des albums de contes, hein, en particulier la théorie kahnienne, et qu'on peut jouer avec comme des objets transitionnels. C'est quand même très important de ne pas trop fétichiser la théorie, et qu'elle nous sert de support, enfin de point d'accrochage même, mais que ça ne soit pas sacralisé, parce que sinon on ne peut plus faire de clinique.
Oui, enfin, la théorie ça doit être un praticable qu'on change quand il n'est plus utile, tout à fait.
La place des parents est extrêmement importante, l'accompagnement est extrêmement soutenu, et par exemple, quand les enfants, en général, les thérapies commencent, ils sont très jeunes, et quand les enfants ont une thérapie, pour la plupart, les séances se font avec les parents dans la pièce, le ou les deux parents dans la pièce. Je crois que c'est extrêmement important, d'abord parce que les parents comme ça sont engagés et participent aux séances, et ensuite parce qu'ils s'aperçoivent qu'on se débrouille pas mieux qu'eux, en général, au début, et que petit à petit, dans le travail qu'on peut faire et dans ce lien qui peut s'établir avec l'enfant, ils peuvent s'identifier aussi un petit peu à une certaine façon de faire, on va dire. Et puis, ça relativise beaucoup, beaucoup, beaucoup toute ce qui peut se développer de façon imaginaire chez les parents qui peuvent se sentir tenus à l'écart, alors qu'ils peuvent participer et être partie prenante à la fois dans certaines thérapies et puis aussi dans l'engagement dans le travail. Par exemple, je prends comme référence la Rose Verte, mais j'ai ce matin dans mon exposé, en fait, je parlais aussi de la Maison Lune, qui sont les deux hôpitaux de jour. Ils sont en train de créer une commission éthique des parents, c'est-à-dire que les parents, il y a des groupes de parents, il y a un travail avec les parents sous différentes formes, mais en plus, là, il va y avoir une commission d'admission avec les parents, c'est-à-dire que c'est les parents qui vont admettre les nouveaux parents, d'une certaine façon, pour leur trajectoire, et aussi une espèce de commission d'éthique, c'est-à-dire que les parents puissent dire ce qu'ils pensent, enfin comment ils souhaitent les orientations, etc. Tout ça évidemment avec des articulations avec les gens qui font vivre ces hôpitaux du jour.
Oui, donc juste pour rajouter un petit mot, c'est sûr, enfin, Charles il était en consultation parent-bébé, donc c'est une consultation thérapeutique de ses 15 mois jusqu'à l'entrée à l'hôpital du jour. Et après, les consultations à l'hôpital de jour sont tous les 3-4 semaines, et vraiment dans ce travail de double lien avec les parents, enfin pas double lien, c'est n'importe quoi, de double échange, pardon, où justement on n'a pas le savoir, ils n'ont pas non plus, et comment, pour partager nos expériences communes de ce que nous on essaye de construire et ce qu'ils construisent à la maison, comment cette co-construction va pouvoir aboutir à quelque chose.
Alors, les parents, ils sont même beaucoup plus engagés, puisque vous savez qu'il y a un mouvement qui rassemble un certain nombre d'associations de parents qui s'appelle le RAP, Rassemblement pour des approches des autismes humanistes et pluriels, dont il a été, enfin, on a dit un mot hier, mais il y a aussi le fait que, par exemple, chez nous, les parents, ils ont écrit un manifeste au président de la République au moment de la sortie des préconisations fascales, là, voilà. Enfin, je veux dire, les parents, il y en a aussi certains groupes qui sont engagés politiquement dans l'intérêt qu'ils peuvent trouver au travail qui peut être fait dans le cadre des soins psychiques.
Le travail d'un thérapeute, c'est de pouvoir aider un enfant autiste à développer un langage intérieur et aussi de pouvoir simultanément, aussi petit à petit, construire des ponts internes et externes pour pouvoir canaliser à la fois son excitation et aussi pouvoir construire son unification.
Juste d'un certain point de vue, je veux dire, c'est important d'avoir un curseur par rapport à ce qui peut être la vie personnelle des gens, enfin, ce qui leur arrive. Comme vous dites, parfois, il y en a quelques-uns qui vont voir quelqu'un à l'extérieur. Mais pas toujours, hein, c'est pas forcément nécessaire. Mais ça, il ne s'agit pas que les soignants déballent des choses personnelles dans les services de soins. Le curseur, c'est ce qui est en rapport avec le sujet dont il est question, qui sont les enfants qu'on a à soigner. Et je crois que c'était très important, dans une équipe en tout cas, qu'il y ait quelqu'un qui borde ça. Parce que, toutes les dérives sont possibles. Donc ça me paraît être un point important. Et dans ce que j'ai essayé d'exposer, tous les étayages qu'il y a à tous les niveaux, y compris dans des niveaux informels, après un repas en prenant un café, ou le soir avant de partir un week-end quand quelqu'un n'est pas bien, on reste 5 minutes, on en parle, parce que c'est important que les gens puissent digérer un petit peu ce qui leur arrive. Mais on sait que dans les mécanismes de projection archaïque, on est envahi par ça et on part avec, et on peut faire des cauchemars, passer un mauvais week-end, etc. Ce qui est important, c'est les différents étayages, la capacité de réalimenter la rêverie par les formations, par la venue d'intervenants extérieurs, par l'ouverture, parce qu'on nous a parfois dit que les oviatures étaient des structures fermées. Et, par exemple, dans la projection du film La Rose Verte, il y a un parent qui est intervenu, il me dit « Mais votre hôpital de jour, il est autiste. » J'ai trouvé ça très, très intéressant parce qu'on est contaminé par ce mécanisme de fermeture de ces enfants et que c'est important quand même d'être tout le temps attentif, vigilant, à créer tout le temps des ouvertures. Tout le temps, tout le temps.
On vous remercie beaucoup et pour pouvoir continuer la rêverie, nous reprendrons à 14h.